Radio Kapi. Oh,
Kapi. Journal Jocelyne Moussaou.
Bien que moins forte par rapport à hier et avant-hier, la présence importante des véhicules en attente d'être servis en essence est toujours observée ce mardi dans la capitale. Certaines stations au service ont pu se ravitailler hier en fin de journée, affirme le ministre des Hydrocarbures. Libération ce mardi de 3 membres de la task force par le groupe armé Codeco. Ces otages ont été remis aux autorités militaires à Bambou en Ituri. 4 autres, dont Thomas Lubanga, sont encore entre les mains de leurs ravisseurs. Aristide Moukaniroua est notre invité. Il est responsable du centre d'encadrement des enfants dits retardés mentaux à Goma. Il parlera de la problématique de la prise en charge de ces enfants. Bonjour à tous. À Kinshasa, de longues files des véhicules sont toujours observées jusque aujourd'hui dans plusieurs stations en service. La difficulté d'accès à l'essence observée depuis le week-end dernier à Kinshasa demeure encore, bien que certaines stations ont pu se ravitailler hier en fin de journée, selon le ministre des Hydrocarbures. Jean-Francis Mouya, qui vient d'effectuer une ronde dans certaines stations service, nous fait le point.
Oui, Jocelyne Moussaou, nous sommes ici dans la commune de la Gombe, en face d'une station-service située au niveau du rond-point Sosimat. Il est vrai que l'affluence observée ce mardi au sein des stations-service est moins forte par rapport à la journée d'hier et d'avant-hier. Mais on constate néanmoins une présence importante des véhicules en attente d'être servis. Et tout cela occasionne des bouchons puisqu'ils débordent jusqu'à sur la chaussée. Par rapport à la circulation, elle n'est pas fluide et les arrêts de bus restent remplis de monde. Selon quelques conducteurs, cette situation est consécutive au fait que la plupart des véhicules qui roulent à Kinshasa fonctionnent avec de l'essence. Toujours selon eux, si cette situation demeure ainsi, c'est parce que les quelques stations qui ont pu se ravitailler hier n'ont pas reçu une quantité abondante d'essence, mais aussi parce que plusieurs personnes achètent des quantités énormes pour faire des provisions. Ces derniers estiment que les stations sont susceptibles de se retrouver à nouveau dans une situation de rupture de stock à n'importe quel moment. Et pour finir, les pompistes nous renseignent que les véhicules de certains automobilistes ont passé une nuit au sein de leur station et que ce n'est que ce matin que leurs propriétaires sont arrivés de bonne heure pour les récupérer et ainsi se faire servir par la même occasion parmi les premières personnes. Depuis le rond-point Sosimata Kinshasa, Jean-Francis Mouya.
Merci Jean-Francis. À Matadi, sauf Kobyle qui n'est pas en règle avec l'État congolais, toutes les autres stations-service sont ouvertes et vendent le carburant au prix habituel fixé par le ministère des Hydrocarbures. C'est le constat que notre correspondante à Matadi a fait ce matin en sillonnant la ville portuaire. Hier, il était difficile de s'y approvisionner en carburant. Rémi Makadi, conseiller du ministre provincial des Hydrocarbures, que nous avons contacté, indique que c'est la population elle-même qui s'agglutine dans les stations par peur de manquer cette denrée. Sinon, d'après ces derniers, le Congo central n'a pas de soucis en rapport avec le stock du carburant. C'est ce que nous rapporte Nana Plurichmambou.
Les stations totales du rond-point Kinkanda et de la place Couvent sont bien opérationnelles. Les prix du litre n'a pas augmenté. Comme fixé par le ministère des Hydrocarbures, il se vend toujours à 2040 francs. Engen est ouverte mais pas en service. D'après certains chauffeurs, ces sites d'approvisionnement d'essence les orientent vers la station totale et celle-ci fait de la rétention des carburants. À en croire Rémi Makadi, conseiller du ministre provincial des Hydrocarbures, le fait que plusieurs chauffeurs se précipitent chez Total pour s'y ravitailler crée un flux de véhicules autour du site de vente. Et ceci pousse la population à croire à une pénurie du carburant alors que ce n'est pas le cas. Heureusement, cette fausse alerte n'a pas d'incidence sur les prix des transports. Roland Sweka, président de l'association des chauffeurs du Congo au Congo central, affirme que les prix de la course par moto ou en taxi demeurent à 500 francs, même si selon lui, toute la journée d'hier, le carburant n'a pas été distribué dans toute la ville. Selon lui, les chauffeurs ne font pas la queue dans les files d'attente chez Total. Ils achètent les carburants chez les revendeurs appelés Kadhafi. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Nous venons de l'apprendre, 13 personnes sont mortes calcinées dans un bus de transport en commun. L'accident a eu lieu le dimanche soir à 55 km sur la route Likassi dans le territoire de Kambové. D'après l'administrateur du territoire de Kambové qui confirme l'information, les victimes ont été inhumées dans un cimetière situé non loin du lieu du drame. D'autres détails avec Djoubek Moukabé, administrateur du territoire de Kambové, joint par Jean Gandou.
Il s'agissait d'un bus de marque Rosa en provenance de Likasi. À son bord, il y avait des passagers. Il est entré en collision avec un minibus de marque Noah qui provenait de Lubumbashi rempli de marchandises au niveau de 55 km. Dans le territoire de Kambos, le bus il a commencé à prendre feu pendant que à l'intérieur, il y avait des passagers. Quelques-uns se sont échappés, mais les autres étaient coincés à l'intérieur parce que le bus prenait le feu. Et les rescapés étaient acheminés dans les formations médicales à Likasi, les autres à Lubumbashi. Mais lorsque nous sommes descendus sur place, en fuyant, il y avait 12 crânes, 12 calcinés, y compris celui qui était acheminé à Tumbe qui est mort. Donc, c'est 13 morts. C'est pratiquement impossible de connaître la cause de l'accident. Il n'y avait personne qui pouvait nous donner la cause de l'accident parce que tout le monde était parti. On avait trouvé que les épaves en train d'être brûlées. Je me suis rendu sur place, assisté au ramassage des os qu'on a enterrés à un cimetière le plus proche de la route.
Direction l'Ituri, où trois membres de la task force ont été libérés ce mardi par le groupe armé Codeco après 48 heures dans leur maquis dans le territoire de Djougou. Selon le coordonnateur intérimaire de cette structure, ces otages ont été remis aux autorités militaires à Bambou. Quatre autres membres de la task force, dont Thomas Lubanga, le chef de cette équipe envoyée par le chef de l'État, sont encore entre les mains de leurs ravisseurs. Isaac Remoyope.
Parmi les otages libérés, il y a le général de FARDC Germain Katanga, le président de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, Inadi, Janvier Bin Ekwale, et les chauffeurs de cette délégation de la task force Blaise. Les coordonnateurs intérimaires et porte-parole de cette structure indiquent que ces personnes ont été remises aux autorités militaires à Bambou avant d'être acheminées à Bounia pour rejoindre leur famille. Pichu Iribi rassure que les tractations évoluent pour obtenir la libération d'autres otages, Thomas Lubanga, des colonels de FARDC, et Floribert Ndjabou. Il invite la population à garder le calme et surtout d'être confiante sur l'aboutissement heureux de ce processus de paix.
Aujourd'hui, on a remis entre les mains des FARDC les trois otages, mais est-il que nous avons convenu de la libération de tous les otages, mais ils ont décidé de faire progressivement. Nous leur faisons confiance.
D'autres sources indiquent qu'il y aurait des divergences entre les différentes factions de la milice Codeco, ce qui retarderait le processus. Cependant, les leaders de cette milice seraient prêts à rejoindre les des précantonnements et sollicite des garanties du gouvernement pour leur prise en charge. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, la situation sécuritaire et humanitaire reste préoccupante dans les territoires de Rutshuru. Des centaines de familles sont éparpillées dans les localités plus ou moins sécures, alors que d'autres sont en refuge en Ouganda, jusqu'ici sans assistance des autorités. Le député national Jean-Baptiste Kasekwa, élu de Goma, qui déplore cette situation, demande au gouvernement de renforcer les capacités humaines et matérielles de l'armée. Sifa Maguru.
Les députés nationaux Muindo Kasekwa, qui séjournent dans la région, déplorent des pertes importantes des militaires et des civils depuis la reprise des attaques du M23 contre les FARDC, un groupement de Djomba. Jean-Baptiste Kasekwa parle, entre autres, des failles organisationnelles et bien d'autres insuffisances qui doivent être réexaminées et renforcées afin de stopper cette résurgence du M23.
Il y a un problème au niveau des effectifs militaires et à ma qualité de membre de la commission de défense et sécurité, je me propose d'interpeller le ministre de la Défense, de même que tous ceux qui interviennent dans la gestion. Comment expliquer qu'à pleine guerre, qui a commencé depuis le 8 novembre, l'on connaisse des situations de dissolution des régiments organiques, des militaires soient dépourvus des rations de combat. J'ai vu des blessés de guerre transportés sur des motos. Notre gouvernement ne prenne pas des mesures de manière à assurer la prise en charge des militaires au front.
Sur le plan humanitaire, Jean-Baptiste Kasekwa estime un nombre de 38 000 familles déplacées répertoriées par la société civile seulement dans les Rutshuru et qui vivent dans de mauvaises conditions. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Au sud Kivu, désormais, le collège des étudiants de l'UOB est suspendu de toutes ses fonctions. Le comité de gestion doit prendre toutes les dispositions pour les funérailles de l'étudiant décédé samedi dernier sur le campus de l'université. Telles sont les dispositions qui ressortent de la rencontre d'hier lundi au gouvernorat de province. Une réunion présidée par le ministre provincial de l'Intérieur en présence de la conférence provinciale des chefs d'établissement de l'issue. Le condensé de cette rencontre avec Rachel Kissembangou.
Le comité de gestion de l'UOB s'engage à afficher les échéances de paiement des frais académiques. Les funérailles de l'étudiant décédé doivent être prises en charge par l'université. La suspension du collège des étudiants en attendant l'issue des enquêtes judiciaires. Le comité de gestion de l'UOB est chargé de prendre des mesures provisoires à travers les délégués facultaires et se fera assister par la conférence provinciale des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire du Sud-Kivu. La province, quant à elle, prendra des dispositions nécessaires pour que la justice se fasse avec diligence. Ceci figure parmi les résolutions prises lors de la réunion d'hier entre le gouvernement provincial d'un côté, le comité de gestion de l'UOB, les différents corps de l'UOB, le collège des étudiants et la conférence provinciale des chefs d'établissement de l'ESU. Rappelons que samedi dernier, un étudiant a trouvé la mort suite au coup lui administré par ses collègues de la brigade universitaire. Les manifestants disaient protester contre une éventuelle hausse de frais académiques. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
En bref, François Béat, ancien conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République, a été transféré hier soir à la prison centrale de Makala. L'Agence nationale de renseignement a ainsi mis fin à sa garde à vue prolongée de près de 2 mois dans ses installations. Selon nos sources proches de l'ANR, le dossier de François Béat sera transféré à l'auditorat militaire qui pourra solliciter auprès de la haute cour militaire la fixation pour jugement. Rappelons que l'ex-patron du Conseil national de sécurité est accusé par les services des renseignements d'atteinte présumée à la sûreté de l'État. Mais le collectif Free François Béat, qui milite depuis son arrestation pour sa libération ou sa présentation devant un juge, parle toujours d'un dossier vide. Au Kasaï oriental, manifestation ce mardi des agents de la minière de Bakwanga, Miba. Ces agents s'insurgent contre la paye de la FBN Bank de 50% de leur salaire du mois de février. La direction générale affirme qu'il s'agit d'un malentendu étant donné que le banc syndical n'a pas transmis fidèlement les clauses des négociations conclues dans les réunions avec l'employeur. Toutefois, le directeur général demande aux agents d'être calmes car les instructions viennent d'être données à la banque pour libérer la totalité des salaires de chaque agent. Des explications avec Esther Dalafina.
Les agents de la minière de Bakwanga étaient nombreux ce matin devant la First Bank nigérienne pour retirer leur salaire. Ceux qui ont accédé le premier ont communiqué à leurs collègues que la banque paye que 50% des salaires et non la totalité. Certains haussent les tons et s'insurgent contre la décision. Le gouvernement a donné l'argent pour qu'on paye la totalité des salaires aux travailleurs, mais arrivé ici, on donne la carte pour signer comme ayant touché la totalité des salaires, mais là, on donne 50%, nous avons refusé. Contactez les directeurs généraux de la minière de Bakwanga Miba affirme qu'il s'agit d'un malentendu car le personnel n'a pas reçu la bonne information.
Le personnel n'a pas tort de s'énerver parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Et là, nous constatons que le personnel n'avait pas reçu la bonne information. Nous étions en train d'attendre le paiement partiel du ministère des Finances sur notre créance certifiée.
Colonel Lukusa demande aux agents d'être calmes. Selon lui, la situation vient d'être réglée.
Que le personnel se calme, et nous avons levé l'option, nous avons décidé et inscrit la banque pour donner la totalité de la paie, qui sera alors la paie du mois de février.
Pendant que certains agents refusaient de toucher aux 50% des salaires, d'autres agents ont jugé bon de retirer les fonds disponibles au guichet de la banque. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Rendons-nous dans la province du Maniema où le médecin chef de zone de santé de Salamabila tend sa main aux autorités tant provinciales que nationales, demandant les spécialistes en radiographie et échographie. Selon Dr Uniawichi Albert, c'est depuis presque 2 ans que l'hôpital général de référence de Salamabila dispose d'un appareil de radiographie et échographie et qui chôme faute des spécialistes. Ces derniers ajoutent que pour ces examens de radio, les malades sont toujours transférés à Bukavu au sud de Kivu. Dr Uniawichi explique au micro de Florence Kiza.
Ça, c'est un plaidoyer vraiment très primordial parce qu'on n'a pas de spécialistes. Ça fait longtemps que cette radiographie traîne au niveau de l'hôpital général de France. Ça fait maintenant 2 ans ou 3 ans que nous avons des problèmes. Même au niveau de l'échographie, on n'a pas de spécialistes. Alors, nous demandons au niveau provincial, voire même au niveau national, pour nous aider d'avoir quelques spécialistes pour l'utilisation de ces appareils-là. Pour, par exemple, la radiographie RX et thorax et les autres examens en cas de fracture, on a vraiment des problèmes très sérieux. Dans ces cas-là, il faut envoyer ce cas au niveau de Bukavu pour trouver une solution. À ce qu'on sait, l'échographie, nous avons quelques médecins qui se démènent, qui s'établissent par ici, par là pour faire cet examen. Mais nous cherchons, nous demandons pour le moment qu'on ait des spécialistes. On ne doit pas seulement se contenter des petites expériences par les médecins locaux. Vraiment, il y a une grande capacité d'accueil parce que les soins sont gratuits. Mais moi, en tant que le numéro un de la zone de santé, je cherche le spécialiste qui ait quand même une certaine formation pour la capacité de diagnostic au niveau de l'échographie.
Actualité internationale.
Au 41e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce mardi 5 avril, l'indignation continue après la découverte macabre de nombreux corps de civils dans les zones anciennement occupées par la Russie près de Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit s'exprimer aujourd'hui devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le nouveau ministre des Finances du Sri Lanka annonce ce mardi quitter le gouvernement un jour après sa nomination par le président dans un contexte de crise économique aiguë sans précédent. Bien que je regrette les désagréments causés, je crois avoir toujours agi dans le meilleur intérêt du pays, a-t-il ajouté dans une déclaration prenant des mesures nouvelles, proactives et non conventionnelles pour résoudre les difficultés du pays.
L'invité.
Nous recevons aujourd'hui Aristide Moukaniroua, responsable du centre d'encadrement des enfants dits retardés mentaux à Goma. Avec lui, nous parlons de la problématique de la prise en charge de ces enfants dans la ville. Aristide Moukaniroua appelle le gouvernement et toute la communauté à se mobiliser aux côtés des familles de ces enfants pour faciliter leur prise en charge. Il s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Aristide Moukaniroua, bonjour.
Bonjour madame.
Combien d'enfants souffrant d'handicap intellectuel et mental vous encadrez au niveau de votre centre?
Vous savez, les enfants souffrant de la déficience intellectuelle sont très nombreux, fort malheureusement ils ne sont pas encadrés. Du fait qu'ils ne peuvent pas accéder à la scolarisation normale comme tant d'autres enfants, nécessite vraiment un encadrement spécifique approprié à leur capacité intellectuelle. Notre centre qui a débuté en 2006 encadre déjà 68 enfants. Jusqu'en 2012, fort malheureusement, par manque de moyens financiers, nous avons été obligés d'arrêter les activités jusqu'à présent. Mais, n'empêche, comme parmi ces enfants, il y a aussi ceux qui souffrent de l'épilepsie et que les parents ne sont pas à mesure de la prise en charge médicale, étant donné que les soins sont très coûteux, nous parvenons à faciliter la prise en charge médicale en faveur disons, des parents. Et nous les envoyons les uns au groupe d'accompagnement des malades de Gram et à la parole sur ce professeur Xavier Dendoche, parce que là, il y a un collaborateur, notre collaborateur du centre pour handicapés les manteaux, qui est italien, il s'appelle Paolo Volta. C'est lui qui parvient à envoyer même les médicaments pour l'épilepsie, disons, aux paroissiens de cette paroisse-là. Alors comme ça, ça crée quand même un soulagement aux parents, dont les enfants souffrent aussi de l'épilepsie en même temps du handicap intellectuel.
Et aujourd'hui, comment vous faites les suivis des enfants?
Normalement, bien que nous ayons arrêté les activités scolaires, quand même nous continuons aussi quand même à fréquenter certaines familles. Surtout des enfants qui ont beaucoup plus de problèmes, surtout issus des familles pauvres. Parce que vous voyez que ces enfants-là, comme ils ne sont pas encadrés, ils passent les journées en train de sillonner ça et là, c'est l'oisiveté toute faite. Et en conséquence, beaucoup de ces enfants sont victimes aussi de beaucoup d'abus. Mais jusque-là, nous parvenons quand même à passer de porte à porte en cas d'appel parce que nous sommes en train d'organiser de nouveau la relance de ces activités pour ces enfants, pour essayer encore de sauver ces enfants parce qu'ici à Goma, vraiment, ils sont très nombreux et leurs droits ne sont pas respectés.
Est-ce que, au-delà du suivi de ces enfants, vous apportez également un accompagnement au niveau de leur famille?
Oui, parce que au cours, disons, de notre parcours, nous parvenons aussi à détecter certains cas de conflits conjugaux. Une fois, par exemple, dans certaines familles où les parents parviennent à remarquer, disons, la difficulté mentale chez leur enfant, parfois il y a les révoltes. Ou soit les parents se culpabilisent, soit le papa qui se fait en disant non, à partir de mon standing de vie ou mon statut social, je suis docteur en ceci, licencié en cela, ma fonction, tout ça. Le papa dit, par honte, disons, de ses amis, qu'il doit avoir un tel enfant, il refuse. En refusant que ce n'est pas son enfant, il dit que c'est la maman qui doit avoir touché cet enfant quelque part, alors que pas. Si nous sommes informés, nous faisons des interventions. Beaucoup ne connaissent pas les causes pour lesquelles l'enfant peut naître avec une déficience intellectuelle. Nous qui avons ces connaissances-là, nous parvenons à les réconcilier. Nous disons, voilà, laissez la maman tranquille. Même vous, en tant que maman, vous n'avez pas voulu ce que l'enfant naisse de tel qu'il est. Dieu merci, dans certaines familles, parfois nous parvenons à réussir. Mais dans d'autres, les papas fuient définitivement. Et il abandonne et la maman et l'enfant. Alors vous voyez que ça crée une double charge à la maman. Si le papa abandonne, disons, la maman et l'enfant, et la suite de la progéniture, la maman aussi est déjà victime de cet enfant alors qu'elle n'a pas voulu. Voilà.
Oui, et c'est quoi la déficience intellectuelle?
La déficience intellectuelle, par définition, bon, d'une façon générale, c'est le fonctionnement intellectuel nettement inférieur à la moyenne, mais avec déficit d'adaptation à la société. C'est ainsi que nous, en tant que centre d'entraînement des enfants de l'état des mentaux, qui avons la matière, nous sommes en train de chercher le voie et moyen pour essayer d'organiser plus d'ateliers de formation en la matière, afin que la communauté soit informée, non seulement de la déficience intellectuelle, mais aussi pour savoir comment prendre en charge ces enfants une fois les déficiences intellectuelles déjà en place. Donc la responsabilité revient d'abord à l'État lui-même, parce que c'est l'État aussi qui doit prendre en charge ces enfants-là, comme tant d'autres citoyens du pays. La communauté doit aussi prendre en compte, bon, disons, ces enfants, bien qu'ils soient déficients intellectuels, quand même, ils sont des êtres humains comme nous tous. Aussi, la famille. La famille, d'abord, au sein de laquelle l'enfant est né. Les parents doivent savoir que, une fois leur enfant est déficient intellectuel, il doit être pris en compte au même rang que tous les autres enfants issus de la même famille. Parce que parfois, les violences commencent en famille même, pas le rejet. Mais maintenant, quand c'est la tuile de la communauté, la communauté aussi va faire de même.
Monsieur Aristide Mukaniwa, merci.
Merci aussi, madame.
Ce journal prend fin. Il a été coordonné par Alain Irung et mis en onde par Alain Goy. Merci de l'avoir suivi.